Récemment, je me suis rendue chez un médecin avec un motif bien précis. J'avais en tête un diagnostic, parce que même quand on n'est pas un professionnel de santé, on aime bien faire des hypothèses après 2-3 recherches sur Internet. Et puis, rien à voir. Le spécialiste qui m'a reçue a livré une toute autre analyse. Alors oui, un patient qui se trompe sur son état de santé, c'est sûrement fréquent. Mais parfois, c'est au tour du médecin d'être surpris. La consultation lui paraît tout à fait ordinaire, mais ce patient ou cette patiente va bousculer son savoir et sa pratique. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Un podcast qui donne la parole à des professionnels de santé confrontés un jour à un cas mystérieux, à des symptômes parfois jamais vus ailleurs. Ils ont douté, ils ont mené une véritable enquête avec l'objectif de guérir et parfois la peur de ne pas y arriver. Dans cet épisode, Jade Avril, kinésithérapeute, va nous parler d'une patiente venue la consulter pour une douleur au dos, a priori, on ne peut plus banal.
Alors, c'est une patiente qui est arrivée le 9 mars 2020 au cabinet. C'était une première consultation, elle avait pris rendez-vous et lorsqu'elle est arrivée, au niveau de son faciès, de ses expressions, elle avait le visage un peu fermé, elle était un peu recroquevillée sur elle-même, les épaules enroulées, limite les sourcils un peu froncés, etc. Quand il y a quelqu'un qui arrive comme ça, tu sens qu'elle s'est pas assise dans la salle d'attente, par exemple, et bon, tu te dis, bon, ok, c'est quelqu'un qui a mal, parce que voilà, le fait de bouger, de faire un transfert assis debout, ça va être douloureux pour elle, quoi. On va s'installer dans un box. C'est une dame qui m'explique que ça fait depuis septembre qu'elle souffre un peu du dos, que ça ne fait qu'amplifier depuis lors. On a souvent des personnes qui arrivent vraiment 6 mois après le début des douleurs, parce qu'au début, elles se disent « bon, bah voilà, ça va passer, je vais pas aller consulter, je vais pas rentrer dans un parcours de soins qui va être hyper chronophage, je vais devoir m'organiser, je vais devoir planifier des choses, sachant que bon, bah potentiellement, c'est pas très grave, quoi. » Elle me dit, donc j'ai extrêmement mal au dos et ça descend le long de ma jambe. À la suite des douleurs qu'elle a développées depuis septembre, elle a été consultée donc son médecin généraliste qui l'a orientée donc vers un rhumatologue. Et parce qu'en fait, à la base, l'hypothèse du médecin généraliste, c'était que les douleurs de son dos qu'elle décrivait au niveau du nerf sciatique étaient liées plus à la sédentarité, au fait qu'elle soit assise toute la journée, etc. C'est une dame qui avait un job donc à l'ambassade d'Australie et donc qui était à un ordi, à un bureau toute la journée, plutôt sédentaire, mais qui, en dehors de ses horaires de boulot, bah, elle faisait du jardinage. Aussi, elle était inscrite à une salle de gym. Bon, qu'elle regrettait ne pas fréquenter assez à son goût, mais elle avait quand même une activité physique, donc quelqu'un de plutôt actif au final. Ce genre de patient, c'est aller peut-être pas à 50%, mais peut-être 30-40% des patients qui me consultent au quotidien. Donc, elle est passée par son médecin généraliste. Le rhumato avait prescrit une IRM qu'elle avait réalisée et qui revenait avec ce diagnostic de dégénérescence au niveau des disques L4, L5 et L5S1, qui, en fait, une dégénérescence d'un disque, c'est un disque qui va faire une saillie au niveau d'un passage où potentiellement il y a un nerf qui coulisse et qui peut se bloquer. En fait, l'image que je donne beaucoup à mes patients, c'est l'histoire d'un tuyau d'arrosage sur lequel tu vas mettre une pierre. L'influx nerveux, il passe plus bien, etc. Ça s'inflamme souvent et c'est ça qui provoque les douleurs de trajet qu'on appelle vulgairement sciatique, quoi. Il y a beaucoup de patients qui nous consultent parce que du fait de la sédentarité, du fait de la position assise au travail, etc., une colonne qui va se dégrader physiologiquement, en fait, parce qu'on est tous voués à avoir des hernies discales, à avoir des disques qui dégénèrent, mais c'est pas forcément symptomatologique, en fait. Tu peux avoir des disques qui font des hernies, etc., sans pour autant avoir les douleurs associées comme cette patiente. Ce qu'on sait pas tellement au niveau des examens du rachis, c'est qu'au final, C'est normal d'avoir des disques qui dégénèrent et à partir d'un certain âge, en fait, c'est inévitable. Ça se trouve, on en a tous et au final, on vit très bien. Donc déjà, moi, ça a été mon premier discours avec cette patiente, c'est de la rassurer sur le fait que bah, elle arrive avec un examen qui est grave, en fait, où elle voit qu'elle a un problème, qu'il y a une dégénérescence du disque, ça fait très peur quand c'est pas ton domaine. Donc après, je la rassure justement sur le fait que c'est tout à fait traitable, qu'effectivement, ça peut occasionner des douleurs qui sont invivables, qui l'handicapent pas, parce qu'elle m'avait décrit aussi le fait qu'elle était très handicapée au quotidien par le fait qu'elle fasse des crises inflammatoires au niveau de son nerf, qu'il n'y avait pas grand-chose qui la soulageait. Et du coup, elle attendait pas mal aussi de la kiné par rapport au fait d'aller mieux, en fait, et de pouvoir réduire ses douleurs. Après, l'inflammation, c'est assez complexe parce que les processus inflammatoires, faut visualiser un peu des montagnes russes. Tu vas avoir des périodes où ça va être horrible et des périodes où voilà, t'as ton petit fond douloureux, mais tu prends un Doliprane et puis basta, ça passe quoi.
Ce petit fond douloureux, cette patiente s'y est presque habituée. Mais ce qu'elle a du mal à gérer, ce sont ces pics inflammatoires qui l'ont même conduite plusieurs fois à des arrêts de travail. À ce moment-là, elle ne pouvait plus du tout bouger. Son IRM le montre bien, elle a une dégénérescence des disques les plus fréquemment abîmés, L4, L5 et S1, situés en bas de la colonne vertébrale. La kinésithérapeute Jade Avril démarre sa prise en charge.
Déjà, bah, je lui demande de bouger dans les trois plans de l'espace. Donc, je vais lui faire faire une distance doigt-sol. Donc, je lui dis de se baisser. Et donc, au moment où je lui demande de se baisser, elle pouvait descendre, allez, d'une dizaine, vingtaine de centimètres. Et directement, ça lui provoquait des douleurs. Et donc là, je vois que très peu de mobilité. Je lui fais faire les inclinaisons des deux côtés. Donc là, je vois effectivement que dès qu'elle venait comprimer du côté gauche, donc elle faisait une inclinaison gauche, c'est directement, elle était bloquée, alors que de l'autre côté, elle pouvait y aller sans souci. Je lui avais demandé de faire des rotations, là, ça n'avait rien donné à ce moment-là. Donc suite à ça m'avait déjà orientée un peu bah voilà, sur ce que je pouvais faire, sur les limitations qu'elle avait et les douleurs que ça provoquait. Je la fais s'installer sur la table d'examen et je lui dis que je vais réaliser le test de la SEG, qui est un test bonne neurodynamique. C'est un test pour diagnostiquer, entre guillemets, les sciatiques. Donc en fait, c'est un test où tu vas lever une jambe tendue avec une extension aussi au niveau du plan postérieur de la jambe pour étirer le nerf sciatique qui part de ta colonne jusqu'à ton pied. Tu le réalises jambe tendue, avec la pointe de pied en extension, donc pied flex, et tu lèves jusqu'à ce qui est disponible en termes de souplesse de la personne que tu as en face de toi. Je le réalise du côté droit, pas de souci, pas de douleur. Je le fais à gauche, là je peux à peine lever sa jambe, elle me dit directement « ça me fait mal », etc. Bien entendu, à chaque fois, je lui demandais de me coter un peu la douleur pour voir son ressenti par rapport à ça, en fait. C'est-à-dire que quand elle s'était baissée pour réaliser le test doigt-sol, elle s'était bloquée directement en me disant « là, ça monte à 6 sur 10 direct, j'ai pas envie d'aller plus loin ». Pareil, lorsque je le réalise à gauche, son test la SEG, je bouge à peine sa jambe, elle me dit « on se stoppe, là, ça monte à 7-8 quoi ». Là, je me dis « ok, là, le diagnostic est clair, c'est une pathologie à laquelle je suis habituée, donc là, tout bêtement, je me dis, bon, la radio, enfin l'IRM montre ça. Au niveau des tests actifs qu'elle réalise, c'est très symptomatologique, justement, d'une sciatique, avec d'ordre d'une compression à gauche, douleur directement. Dès qu'elle se baissait, ça lui faisait mal. Donc, on commence à réaliser diverses techniques de thérapie manuelle, histoire de le soulager, etc. Je lui avais fait une petite fiche pour qu'elle puisse le faire aussi à domicile en rentrant chez elle ou même le matin. Parce qu'au final, les douleurs inflammatoires, elles arrivent souvent en fait en fin de journée. La nuit, elle te réveille et souvent le matin, en fait, t'as un verrouillage. Donc c'est une dame qui m'a dit que voilà, le matin, quand elle se levait, elle avait l'impression d'avoir 90 ans et d'être complètement bloquée. Et qu'au final, au cours de la journée, ça s'apaisait un peu et qu'elle pouvait fonctionner en ayant mal. Parce qu'elle prenait aussi anti-inflammatoire et antalgique, mais qu'elle arrivait à fonctionner et qu'elle cherchait vraiment à faire en sorte que ses douleurs disparaissent.
Le diagnostic paraît simple pour la jeune kinésithérapeute. Sciatique. une douleur qui touche les membres inférieurs et peut irradier du bas du dos jusqu'aux pieds, sur le trajet du nerf sciatique qui est le plus gros et le plus long de notre organisme. Pour soulager sa patiente rapidement, la kinésithérapeute commence des massages pour détendre ses muscles et atténuer la douleur.
Généralement, nos plannings ils sont un peu complets quelques jours à l'avance. Et en fait, là, il s'avère que j'avais un créneau qui s'était libéré le lendemain, à peu près aux horaires où elle pouvait consulter. Et étant donné qu'elle avait vraiment très mal, moi, enfin, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous seriez disponible demain pour qu'on continue et qu'on voit un peu comment ça se passe. Donc, elle revient le lendemain. Un peu le miracle, elle n'est pas du tout dans la même attitude au moment où elle arrive dans la salle d'attente. Déjà, elle s'assoit. Elle est arrivée un peu en avance, donc voilà, le temps que je finisse ma consultation d'avant. Elle avait eu le temps de se changer, elle avait mis un jogging justement pour être à l'aise. Donc là, je lui demande depuis hier comment ça se passe. Elle me dit, ça m'a énormément soulagée ce que vous avez fait. Donc moi, dans ma tête, je me dis, cool, bingo, on a trouvé ce qui n'allait pas. Enfin voilà, maintenant, on va pouvoir avancer. On fait un peu de thérapie manuelle parce qu'elle avait quand même un peu mal, mais on a commencé à avancer, à faire des exercices de mobilité, etc. Moi, la veille, je la vois, je suis paniquée, je me dis, mais c'est quoi cette sciatique de l'enfer? Et au final, le lendemain, elle arrive, ça va, quoi. Et ce qui ressemble plutôt aux patients que je suis habituée à voir, qui viennent, pas parce qu'ils avec des douleurs qui sont présentes, mais qui ne sont pas non plus invalidantes au point de s'arrêter, au point voilà, de ne pas pouvoir se baisser plus de 10 cm quand tu fais une flexion antérieure. Et ensuite, je dis, on va passer dans la salle d'à côté, on va commencer à faire des exercices. Là, je commence à traiter un peu le fond du problème qui, à mon sens, à l'époque où je vois cette patiente lors de la deuxième consultation, problématique de sédentarité. Moi, la plupart des patients qui viennent me consulter dans le cadre d'une sciatique ou dans le cadre de mal de dos, lombalgie, etc., généralement, ce qu'on fait, c'est que je leur donne une petite routine qu'ils font à la maison. Et la plupart du temps, ça va très vite parce qu'en mettant en place cette routine qui va durer 10-15 minutes tous les matins, on va dire, elle s'améliore et ils n'ont plus besoin de consulter. Et le but, c'est d'autonomiser les gens. C'est-à-dire que malheureusement, on ne peut rien faire contre le fait d'être sédentaire, d'avoir un boulot où on est hyper stressé avec des réunions fixes. C'est qu'est-ce qu'on peut faire aussi soi-même pour avoir une sensation de bien-être au quotidien et ne pas subir son boulot, quoi. Je me rappellerai plus des cotations de sa douleur, mais on était plutôt autour de 3-4 que 7-8, comme elle m'avait dit la veille. Donc là, on fait notre petite routine de thérapie manuelle qu'on avait faite la fois d'avant. Et on passe de l'autre côté, justement, pour commencer un peu les exercices de mobilité, etc. Très réceptive. Alors, c'était hyper agréable pour moi, parce que vu qu'elle était plutôt sportive, elle captait direct ce que j'avais à lui enseigner, entre guillemets, à lui prodiguer comme exercice. Donc, on s'était fait une petite fiche et on avait pris rendez-vous pour la semaine d'après. Parce qu'en fait, tu peux justement, chez les patients jeunes, tu peux avoir quelqu'un qui va aller mieux très vite, mais qui derrière va s'aggraver, et surtout dans les processus inflammatoires. Comme je te disais, c'est montagne russe, donc ça nécessite quand même d'avoir un suivi régulier, entre guillemets. Tant qu'il y a des douleurs et tant que c'était pas réglé tout à fait, en fait, son histoire. Donc moi, j'avais besoin de la revoir. Et voilà, on avait aussi d'autres exercices à faire. Le but, c'est de construire, vraiment, c'était de construire un peu cette routine et de voir aussi comment elle pouvait le faire derrière.
La jeune kinésithérapeute est optimiste. Tous les voyants sont au vert. La patiente réagit bien aux manipulations et commence à adopter une routine d'étirement très utile pour en finir avec ses douleurs. À ce moment-là, elle a consulté 2 fois. Mais le confinement décrété en mars 2020 va temporairement interrompre sa prise en charge.
Donc, à la base, on avait rendez-vous le 19 mars. Et on avait dû fermer le cabinet parce que, bon, voilà, à l'époque, on n'avait pas du tout la même approche du Covid. On n'avait pas de masque, pas de gel. On savait très peu de choses. Donc, avec mes collègues, on s'était concertés. On s'était dit non. On ferme, on voit. Et puis même, le Conseil de l'Ordre nous avait recommandé de fermer les cabinets, de continuer les prises en charge urgente. Par exemple, moi, j'allais voir une patiente à domicile parce qu'elle venait de se faire opérer. Si j'avais pas fait la kiné, elle aurait fallu réopérer au sortir du confinement. Donc, la plupart de mes patients, en fait, que je suivais à ce moment-là, je leur ai donné mon numéro de téléphone perso et je leur ai dit, bon, voilà, on va réaliser un suivi à distance. On va essayer de faire en sorte que bah, ça va être difficile de progresser puisqu'on va pas pouvoir se voir. Mais on va essayer au moins de maintenir ce qu'on avait commencé, quoi. Avec cette patiente, on avait commencé à mettre en place une routine. Donc, j'avais eu de ses nouvelles. Elle me disait que voilà, que au niveau de la routine, ça se passait bien, qu'elle avait hâte de pouvoir reprendre pour qu'on puisse avancer. Ensuite, au moment où on est sorti du confinement, on a repris les séances. Donc, le 13 mai, elle est revenue au cabinet. Ça allait. On avait maintenu cet état un peu constant mais faible de ses douleurs, etc. Donc, on continuait d'avancer. Je l'ai vu le 13 mai, le 25 mai et le 2 juin. Donc là, on avait, à mon sens, fini un peu ce qu'on pouvait faire en kiné. Elle, elle était ultra observante de la routine chez elle. Donc, t'as une patiente qui ne fait que s'améliorer, qui suit bien les exercices, qui comprend et qui s'améliore, en fait. Moi, je me dis, OK, il n'y a pas besoin qu'on se revoie. Elle avait quasi plus de douleur, elle arrivait très bien à faire sa routine. Je m'étais dit, bon, on va quand même faire une petite consulte de contrôle le 20 juin, histoire d'être sûre que tout est fini, et qu'elle a bien réussi à intégrer les exercices de kiné dans sa vie quotidienne. Je la revois le 20 juin, pas de souci. En parallèle, moi, je donne des cours de pilates, et elle était même intéressée pour s'inscrire, pour faire un peu plus d'activité physique, etc. Donc, pas de souci, j'avais dit que je la recontacterais au moment où j'aurais mis ça en place, parce qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué. Et pas de problème. Je m'étais dit, OK, ça a plutôt bien fonctionné, on était contentes toutes les deux. Et puis, une semaine après, elle m'envoie un message et elle me dit, Jade, c'est horrible, ça a repris comme au premier jour. Je suis en train de retrouver le message qu'elle m'a envoyé. Donc, on s'était vus le 20 juin. Et donc, une semaine après, elle m'envoie un message. C'est en anglais, donc du coup, il faut que je traduise. En gros, elle m'a dit, depuis le rendez-vous de lundi, ma jambe est complètement bloquée au point où c'est impossible pour moi de me bouger sans appeler à l'aide ou sans crier de douleur. J'ai hésité à aller consulter à l'hôpital et je ne sais pas quoi faire. J'ai repris des médicaments antalgiques, ce qui a aidé un peu. Et qu'est-ce que tu me recommandes? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, je me dis, il y a un souci. Comment c'est possible? Je lui demande si elle a arrêté la routine. Elle me dit pas du tout, je continue. Je comprends pas. Donc là, je me dis, OK, ça veut dire qu'on a manqué un truc. C'est une femme qui voulait faire des cours de pilates. Une semaine avant, elle était pas du tout comme ça, quoi. Et donc, du coup, moi, je dis, prends les antalgiques si ça te soulage pendant un temps et si ça persiste, retourne voir le docteur. Et tu me tiens au courant, quoi. Moi, en fait, sur le traitement kiné, pour moi, on avait fini, en fait. Donc, je voyais mal ce que j'avais à lui apporter. En fait, elle habitait pas à côté du cabinet. Elle venait parce qu'elle était au travail à côté. Donc, c'est une dame qui disait qu'elle pouvait pas se lever sans hurler. J'allais pas lui dire « Fais 30 km et viens me consulter au cabinet ». J'avais dit de temporiser, d'essayer de faire... J'ai essayé de retrouver le message. Donc, je lui avais dit de recommencer à travailler sur sa mobilité, de réaliser les étirements, etc. Sans douleur, si possible. Mais que vraiment, si ça n'allait pas, si ça s'améliorait pas, de revoir le médecin, quoi. Je tombe des nues, en fait. C'est une patiente que j'avais vue le lundi d'avant, où on avait prévu de faire des cours de sport ensemble, en fait. Donc, je te dis, c'est un peu surprenant.
On y est. C'est le moment du doute, où ce qui paraissait si simple bascule dans le flou. Cette patiente semblait presque guérie, et soudain, le tableau devient plus complexe. La jeune kinésithérapeute réfléchit. Il lui revient en mémoire un élément. Sa patiente lui avait confié avoir arrêté la pilule pour se faire poser un stérilet en cuivre, une contraception sans hormones qui a de plus en plus de succès auprès des femmes. Et la pose de ce stérilet, c'était justement peu avant ses premières douleurs. Elle demande à sa patiente de remplir un calendrier de la douleur, de noter chaque jour précisément ses symptômes pour explorer cette piste.
Donc là, je me dis, c'est quand même bizarre parce que ça revient quand même souvent avec des très, très hauts degrés de douleur, de la haute intensité. Je me suis dit, bon, On est sur une patiente qui est jeune, qui a changé de contraception au moment où elle a commencé à avoir les douleurs, etc. Et ça fonctionne par crise. Elle n'a pas de problématique inflammatoire autre dans sa vie. Je me dis, bon, on va quand même s'intéresser à ça. Donc au moment où, justement, elle m'envoie ce texto, je lui envoie un mail avec ce calendrier de la douleur. Et je lui dis, OK, on va faire ça pendant un mois, voire deux. Et ensuite, on se revoit pour voir justement s'il y a ce fameux truc lié à son cycle menstruel, etc. Je cherchais à ce qu'elle me montre que ses douleurs étaient un peu exacerbées lors de la semaine, soit antérieure à ses menstrues, soit pendant sa période où elle avait ses règles. Donc ensuite, je la revois le 25 juillet. Et donc là, elle se ramène avec justement le calendrier réalisé pendant tout le mois. Quand je le regarde, c'est hyper frappant. La semaine juste avant ces règles, les douleurs commencent à s'installer, en fait. Et pour faire un pic, la veille du déclenchement de ces règles, du coup, je me dis, OK, il y a quand même quelque chose à aller regarder là-dessus, quoi. Je dis, écoute, moi, je pense qu'il y a quand même un lien par rapport à ça. Ça serait bien d'aller refaire une IRM et surtout d'aller consulter quelqu'un de spécialisé qui va aller les chercher partout, en fait, les lésions de l'endométriose. Enfin, ça, c'était un peu la conclusion de cette consultation. Hein.
L'endométriose, c'est ça l'hypothèse de Jade Avril. Cette maladie gynécologique inflammatoire est rythmée par le cycle menstruel. Elle cause de vives douleurs aux femmes qui en sont atteintes, principalement au ventre et dans la région lombaire. Elle s'explique par le développement d'une muqueuse utérine, l'endomètre, dans d'autres régions du corps que l'utérus, souvent la région pelvienne ou dans le côlon, l'intestin grêle ou encore la paroi abdominale. Bien que ce soit extrêmement rare que cela provoque des douleurs sur le nerf sciatique, pourquoi pas? La jeune kinésithérapeute s'est renseignée et elle est presque sûre d'elle. Il faut maintenant confirmer cette intuition avec une IRM qui pourrait montrer ses cellules endométriales dans la région qui lui fait mal, le long du nerf sciatique.
Quelque part, en fait, le fait d'avoir quelque chose qui pourrait potentiellement expliquer ses crises, etc., et les grosses douleurs qu'elle subissait lors de ses cycles, ça la soulageait, en fait. Et le fait de savoir, de comprendre un peu mieux ce qui lui arrivait, ça l'a vraiment soulagée. Et sur le coup, elle était là. Enfin, on a trouvé, en fait. Elle est arrivée chez sa gynéco et donc elle lui a expliqué un peu tout le contexte, tout ce que nous, on avait fait en amont et ce qui nous avait amené à l'hypothèse de cellules endométriales sur le nerf sciatique qui viennent faire des crises au moment où elle a ses règles. Suite à ça, la gynéco, elle a prescrit la fameuse IRM pelvienne et qu'elle a réalisée ensuite, quoi. Elle a appelé au cabinet et heureusement, j'étais là à ce moment-là. Elle m'a appelée et elle m'a dit, là, j'ai eu les résultats de l'IRM, c'est bien ça. En fait, j'ai des cellules endométriales qui ont migré sur le nerf sciatique. Il n'y en avait pas ailleurs. Donc j'imagine que c'est encore plus rare. Après, je suis pas spécialisée non plus dans la prise en charge de l'endométriose, mais elle a enlevé son stérilet, elle s'est mise à prendre une pilule contraceptive justement, et au final, elle a pu justement ces crises liées à sa sciatique. Mais elle continuait évidemment la routine parce qu'elle avait bien compris que dans le cadre de son boulot sédentaire, c'était quand même nécessaire. Ce qui était bien aussi, c'est que, en fait, étant donné qu'elle avait qu'une courte période sans pilule contraceptive, parce que c'était de l'ordre d'un ou deux ans, il n'y avait pas eu d'installation d'adhérence, etc., qui nécessitait de la chirurgie, en fait. Le fait de prendre la pilule contraceptive, ça la soulageait assez, et elle avait pu, justement, ses crises à ce niveau-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'endométriose est installée depuis X années, en fait, souvent, t'as des adhérences qui créent des douleurs pelviennes, qui nécessitent la chirurgie quand elles sont vraiment trop importantes et trop handicapantes en termes de douleurs, quoi. Finalement, ça s'est bien terminé. Et à ce moment-là, on a un peu soufflé toutes les deux en se disant « Enfin, c'est fini, quoi ». Ça a été assez spécial comme prise en charge parce que du coup, il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de retard, il y a eu beaucoup d'acteurs différents et surtout, il y a eu une évolution un peu en montagne russe qui n'est pas hyper classique non plus. Mais sinon, au final, on était satisfaites toutes les deux, quoi.
Grâce à l'intuition de sa kinésithérapeute, cette patiente n'aura pas attendu tant que ça pour être diagnostiquée de son endométriose. Car c'est le grand problème de cette maladie encore mal connue aujourd'hui. Les symptômes sont très divers et le personnel médical est encore insuffisamment formé. D'ailleurs, l'endométriose vient juste d'être intégrée à la formation des étudiants en médecine. C'est pourtant très important de ne pas reporter le diagnostic pour éviter les complications et notamment l'infertilité.
Alors, des patients qui viennent me consulter pour l'endométriose, j'en ai pas mal, mais plutôt dans le cadre de la rééducation périnéale. Du fait des douleurs, des crampes. Et souvent, c'est des personnes qui installent des troubles, soit urinaires, soit sexuels aussi. J'ai beaucoup de patientes qui viennent me consulter pour ça, en fait. Liées aux douleurs, t'as pas mal de patientes aussi qui font du vaginisme. J'avais même une patiente, on avait le même âge, et elle se faisait limite pipi dessus, quoi. Et en fait, ça, c'était vraiment du fait que les lésions soient super importantes parce qu'il y avait eu retard de soins, retard de diagnostic. Généralement, la plupart des femmes jeunes qui me consultent, si elles ont de l'endométriose, elles le savent, en fait. Et, ou sinon, elles me parlent... Alors, c'est pas forcément diagnostiqué, il n'y a pas forcément d'IRM, mais tu vas avoir des patientes qui vont dire c'est pas diagnostiqué, mais je me dis, étant donné la prévalence de cette patho, j'y suis quand même, quoi. Et justement, moi, c'est quand j'ai des patientes qui viennent comme ça, qui pensent mais qui ne sont pas sûres, je leur dis, ça serait quand même bien d'avoir un diagnostic, d'aller consulter quelqu'un justement spécialisé dans ce domaine pour justement être pris en charge, en fait. Moi, depuis que j'ai reçu cette patiente, depuis qu'elle est venue me consulter, c'est vrai que c'est une question que je pose tout le temps maintenant. La question de l'endométriose, la question de la contraception, et puis justement de tout ce qui est de l'ordre de la rééducation gynéco, c'est vrai que ça m'arrive beaucoup plus d'en parler avec des gens qui viennent me consulter dans le cadre de lombalgie ou autre, en fait. Ça a un peu modifié ma manière de consulter aussi quand j'ai une femme qui a la trentaine, qui, entre guillemets, vient par rapport à des problématiques de dos. Directement, je vais rajouter ça maintenant à mon interrogatoire, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Après, on en parle de plus en plus de l'endométriose, donc les patientes, elles vont plus consulter dans ce cadre-là. Le retard diagnostique, il est indéniable. Par contre, ça tend à évoluer. Et t'as de plus en plus de gynécos qui sont formés justement dans ce diagnostic-là. Je trouve que cette patiente, elle m'a beaucoup apporté parce que justement, sur un diagnostic tout bateau qui arrive au cabinet avec une sciatique, enfin un truc super, un tableau clinique très très classique en fait, quelque part, ça te remet aussi un peu en question sur le fait qu'il ne faut pas que tu te reposes sur tes lauriers et qu'il faut toujours aller pousser plus loin et que ton raisonnement clinique, il a aussi de l'importance et qu'il a un impact assez important justement sur la vie de tes patients.
Selon le ministère de la Santé, près de 10% des femmes souffrent d'endométriose, soit 1,5 million à 2,5 millions de femmes en France. Pour améliorer la prise en charge et accélérer le diagnostic, le gouvernement a annoncé début 2022 le lancement d'une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. On estime aujourd'hui que le retard diagnostique de cette maladie est de 7 ans en moyenne. Pour soulager leurs symptômes, les patientes sont principalement soignées avec des traitements hormonaux. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes avec la kinésithérapeute Jade Avril. Pour découvrir les précédents épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, le site rtl.fr et toutes nos plateformes de podcasts partenaires.